propose de nous intéresser à la gauche de la gauche dans cette élection présidentielle française. Il y a trois candidats, dont un qui est en train de marquer de son empreinte, évidemment, cette campagne. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi des micro-partis, des petits candidats. Gros plan sur cette gauche de la présidentielle française.
À l'extrême gauche, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont écrasés dans les sondages par Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, ils parcourent la France, chacun de son côté, prétendant partout incarner l'authentique rejet du capitalisme, à l'inverse du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, les programmes très similaires sont plus radicaux que celui du front de gauche. Dans une économie planifiée, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud veulent exproprier les banques, interdire tous les licenciements et réquisitionner les entreprises qui menacent de délocaliser. Pour doper le pouvoir d'achat, les deux candidats préconisent le SMIC à 1700 euros net et Philippe Poutou une augmentation générale des salaires de 300 euros. Pour financer tout cela, c'est la taxation tous azimuts des plus riches. Peu de différence sur le fond entre NPA et lutte ouvrière, mais une distinction d'identité. Nathalie Arthaud se voyant comme la seule autorisée à porter l'étendard de la révolution. Pour le second tour, Philippe Poutou a déjà annoncé qu'il appellerait à battre Nicolas Sarkozy. Nathalie Arthaud, elle, ne s'est toujours pas exprimée sur la question et ne le fera qu'au soir du 22 avril.
Ou peut-être avant, puisque Nathalie Arthaud est sur le plateau de France 2012. Merci de nous rejoindre. On vient de le voir, vous êtes la candidate de lutte ouvrière. Vous définissez comme communiste révolutionnaire. Trois candidats à la gauche de la gauche, c'est pas deux de trop?
Et pourquoi donc?
Parce que cette offre recueille aujourd'hui aux alentours de 10-12%. Vous n'auriez pas été plus fort derrière une seule candidature?
Vous savez, j'entends certains dire qu'on est beaucoup trop et qu'en réalité, deux suffiraient. Mmh. Bah oui, au bout du compte.
Ça sera le deuxième tour.
Hollande et Sarkozy, deux suffisent. Pourquoi, pourquoi les autres s'exprimeraient-ils? Eh bien, moi, je pense que c'est ça la démocratie, c'est de pouvoir s'exprimer. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je me sens pas représentée par Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, évidemment, on peut être avec ses militants dans des grèves ou dans des manifestations ensemble, mais on n'a pas les mêmes perspectives politiques. Voilà. Moi, je ne suis pas la... Je ne me prétends pas être la seule autorisée à porter l'étendard de la révolution, comme il a été dit dans votre sujet. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, si d'autres voulaient lever l'étendard de la révolution, mais qu'on s'entende bien, de quelle révolution parle-t-on? Pas de la révolution citoyenne où il faut aller bien voter pour que revienne au pouvoir un bon gouvernement de gauche. Moi, de la révolution dont je parle, c'est de la révolution sociale, c'est de la révolution communiste, c'est de changer complètement la société, renverser cette domination du capital, de cette bourgeoisie qui effectivement ruine l'économie, qui l'amène dans le mur. Alors, c'est une société, moi j'ai cet idéal communiste, une société sans classe sociale, sans exploitation.
On vient de voir au cours des derniers jours des manifestations de rue, parfois violentes, comme par exemple en Espagne, il y en avait eu en Grèce, il n'y en a pratiquement pas en France. Est-ce que c'est parce que les manifestants potentiels se disent qu'au fond, avec Nicolas Sarkozy, ils s'en sont plutôt mieux sortis que dans d'autres pays?
Ah, sûrement pas, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Moi, je ne peux pas vous dire quand, comment, mais je suis convaincue que...
Ça fait des décennies qu'on annonce, notamment dans votre parti, cette révolution.
Oui, mais bah, écoutez, on continuera, jusqu'à ce qu'elle se déclenche, parce que nous, on ne doute pas que tôt ou tard, il y aura des millions de femmes et d'hommes dans la rue.
Changement ne passera pas par les urnes pour vous.
Quel changement? Vous savez, on va peut-être changer de gouvernement, sans doute. On changera de gouvernement, peut-être de président de la République. Est-ce que vous pensez que ça changera en ce qui concerne le chômage, en ce qui concerne les bas salaires, en ce qui concerne les petites retraites? Est-ce que vous pensez que ça va diminuer le nombre de gens qui sont surendettés, qui sont pris à la gorge, qui peuvent plus payer leur électricité, leur gaz comme ils doivent, qui sont obligés, y compris quand ils doivent chauffer l'appartement, de choisir une pièce à chauffer? Est-ce que ça changera cela? Non, ça ne changera pas cela.
Est-ce que vous avez un programme, une réponse à cela? Parce que, effectivement, vous avez un certain nombre de slogans sur le fait que il y a cette révolution qui doit modifier les choses. Concrètement, en quelques mots, quel est le programme que vous aimeriez mettre en application si vous étiez élu, ce que vous n'allez pas être?
Le programme, c'est celui que vous avez montré. Mais c'est un véritable programme, un programme qu'on pourra effectivement imposer. Imposer, c'est ça la différence. Moi, je dis bien que c'est pas un programme électoral dans le sens où il suffira pas d'aller voter pour moi pour l'obtenir. En réalité, il faudra un rapport de force. Mais vous savez, toutes les grandes avancées des travailleurs ont été obtenues au travers d'un rapport de force. Les congés payés. Vous savez, les congés payés étaient dans aucun programme du Front populaire. Aucun parti n'y avait pensé, même ceux de la gauche. N'empêche que les travailleurs mobilisés, une grève générale des occupations d'usines, ça a accéléré, si vous voulez, la façon de penser du patronat. Et ils se sont dit qu'il faudrait peut-être bien, effectivement, céder sur un certain nombre de revendications. Donc voilà, nous pensons que le sort des travailleurs va dépendre d'un rapport de force, de la capacité des travailleurs à inverser le rapport de force, à faire valoir leurs intérêts. Et effectivement, dans leurs intérêts, pour nous, le premier objectif, c'est imposer l'interdiction des licenciements.
Alors, on peut interdire des licenciements.
Il faut interdire les licenciements.
Une entreprise qui n'a plus de carnet de commandes satisfaisant, elle fait comment ?
Donc vous convenez avec moi que pour Peugeot Citroën, que pour ArcelorMittal, que pour la BNP Paribas, on peut le faire. Parce qu'eux, ils ont de l'argent, ils sont richissimes. Eux, ils peuvent les garantir, ces emplois et ces salaires. Eh bien déjà, qu'ils le fassent déjà. Hein. Alors, parce que nous disons que celui qui est licencié, eh bien, il est condamné. Il est condamné à la pauvreté aujourd'hui dans le pays. Vous savez, quand on franchit la porte de Pôle emploi, c'est pour un certain temps. Hein, pour un certain temps, parce que... Donc voilà, pour nous, c'est d'abord mettre fin aux difficultés sans nom qui s'abattent sur la tête des travailleurs qui se retrouvent dans cette situation, plongés dans le chômage, parce que ça va très vite. Donc l'urgence, c'est l'interdiction des licenciements.
Alors, et interdiction, vous avez parlé des grandes entreprises qui ont de l'argent, celles qui n'en ont pas, ou qui ont des carnets de commandes faibles, comment
alors,
fait-on ?
Eh bien, celles qui n'en ont pas, eh bien, il faut aller prendre l'argent dans les donneurs d'ordre, dans ceux qui en ont, dans les banques, qui les mettent dans les difficultés. Vous savez, moi, je passe mon temps à dire que cette économie capitaliste, c'est une jungle. Mais c'est une jungle aussi pour les entreprises, et où une jungle où les gros mangent effectivement les petits. Mais est-ce que ce sont les travailleurs qui doivent le payer, cela ? Nous disons non. Donc il faut aller prendre l'argent dans les gros, dans ces donneurs d'ordre, dans ceux qui effectivement écrasent leurs sous-traitants, écrasent leurs marges et leur imposent des contrats qui sont léonins. Donc il faut prendre l'argent où il est. Allez. Et quant aux petits commerçants et aux artisans, je peux vous garantir que si on mettait un terme à ce chômage et à l'aggravation de la misère, eh bien eux, ils verraient leurs affaires redémarrer justement. Donc ça va dans leur sens.
Alors lutte ouvrière s'appelle donc toujours évidemment lutte ouvrière, c'est-à-dire vous adressez aux ouvriers. Problème, il y en a de moins en moins. Et ils votent souvent à l'extrême droite.
Non, il n'y en a pas de moins en moins en France, mais non, pas du tout. Écoutez, des ouvriers...
Il y a beaucoup de délocalisations, il y a moins d'usines en France.
Il y a moins d'usines en France, mais vous savez, même sur une usine comme PSA, on a externalisé beaucoup d'activités. Les mêmes qui étaient considérés comme des ouvriers sont considérés maintenant comme des travailleurs dans les services, parce que c'est un contrat d'externalisation, enfin bon, de sous-traitance. Alors tout ça, la réalité, c'est que des ouvriers, des travailleurs. Vous savez, moi, je me sens travailleuse. Je suis enseignante, je me sens travailleuse. Une infirmière est travailleuse. Un conducteur de bus est un travailleur. Pour moi, bah oui. C'est ceux-là, tous ceux-là à qui je m'adresse, tous ceux qui sont exploités, qui ne maîtrisent pas leurs revenus, ni leur salaire, ni leur pension de retraite, et qui doivent se battre pour les garantir.
Alors, vous êtes sur une antenne qui diffuse mondialement. Nous attachons particulièrement à voir quel est le regard international que vous pouvez proposer. Quel est-il ? Parce que là, vous proposez une révolution, au fond, qui tiendrait dans un pays, c'est-à-dire la France, avec des réquisitions, des choses de genre. Quelle est votre vision européenne et internationale ?
Bah écoutez, moi je vois bien ce qui se passe en Grèce, je vois ce qui se passe en Espagne, c'est que la crise, on l'a fait payer aux petites gens, aux travailleurs, c'est les diminutions d'effectifs dans les services publics, c'est les baisses des salaires, les baisses des retraites, c'est des impôts qui tombent dessus, et puis c'est le chômage forcé. C'est le chômage forcé. Voilà, avec, effectivement, en Espagne, un jeune sur deux qui se retrouve condamné à l'inactivité et qui se dit « mais quand est-ce que ma vie va démarrer ?» Donc, moi, ce que je vois, c'est que ce qui se passe dans ces pays, c'est ce qui nous pend au nez, à nous. C'est, si la crise continue et s'aggrave, c'est bien ça, notre avenir.
Donc, je repose ma question. La France en est mieux sortie pour vous que ces autres pays que vous avez cités ?
Vous savez, la France est un pays plus de moins. Que la Grèce, ça c'est évident, y compris que l'Espagne. Donc évidemment, il y avait plus d'amortisseurs, si vous voulez. Mais surtout, ce qui s'est passé dans cette crise, c'est que c'est les plus fortunés. C'est les banquiers qui s'en sont bien sortis. Mais les travailleurs, eux, ils ont reculé des années en arrière. Je vous rappelle quand même qu'on nous a volé 2 ans de retraite. Que Nicolas Sarkozy,
à 60 ans, oui.
Avec la retraite qui a été repoussée effectivement à 62 ans. Sarkozy a démoli quand même les services publics. Je vous rappelle que voilà, la misère est montée. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 11 millions de femmes et d'hommes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le pays. Alors moi, j'appelle ça une catastrophe sociale. Voilà, dans un des pays, tout le monde se vante, et Nicolas, la cinquième puissance de la planète, et c'est ça. Il faut que les gens comptent euro après euro ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent mettre dans leur caddie. On en est là aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers populaires. Donc moi, j'estime que c'est une catastrophe sociale, que c'est un gâchis, que c'est un... Voilà, et que c'est le fruit justement d'un fonctionnement complètement fou hein, de l'économie qu'il faut absolument changer, remettre en cause.
Nathalie Arthaud, nous sommes rencontrés il y a quelques semaines ici même. Une chose n'a pas changé, c'est au fond l'adhésion des électeurs à votre projet, toujours moins de 1%. Ça vous casse pas le moral, vous êtes sûr d'avoir raison à long terme et peu importe si score électoral, il vous suit pas du tout.
Vous savez, Voltaire et Rousseau, ils étaient tout seuls, isolés, à prendre position, à voir eh bien, que c'était possible effectivement de changer la société, que c'était possible.
Il n'y a pas un superbe isolement au fond qui vous correspond à cette posture.
Eh bien écoutez, on ne se sent absolument pas isolé, je peux vous garantir, dans les quartiers populaires et dans les entreprises, quand on dit que le minimum, ça serait que les salaires augmentent au même rythme que les prix, qu'il faudrait un rattrapage. Quand nous disons que tous ces grands actionnaires, ils décident dans le secret de leur conseil d'administration et ça, c'est ça qu'il faut remettre en cause. Parce qu'ils décident quand même de nos vies, à nous tous, et qu'on aurait tout lieu de mettre notre nez dans ce qui se décide, de les mettre sous contrôle, sous surveillance, parce que ce sont des irresponsables. Je peux vous garantir que quand nous disons ça, nous sommes entendus, compris et même approuvés. Le problème, effectivement, c'est que nous disons que ça, il faudra faire jouer notre force collective, se mobiliser, renouer avec des grandes grèves générales. Voilà. Et ça, force est de constater qu'on anticipe. Voilà, que les travailleurs aujourd'hui ne s'en sentent pas, eh bien c'est pas grave. On anticipe, mais au moins on montre la voie et c'est une façon de préparer l'avenir. Alors, parce que moi je vous garantis, l'avenir il se passera pas dans les urnes. L'avenir il se passera effectivement dans la rue. Et oui, dans la rue et dans les entreprises.
Alors pour l'instant, l'actualité est aux urnes. On vient de voir que par exemple Philippe Poutou lui choisit au deuxième tour. Vous, si c'est l'affiche Sarkozy-Hollande, vous ne choisissez pas, vous renvoyez tout le monde dos à dos.
Bah je vous demande un peu de patience.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Alors. Et je sais bien que voilà. On nous dit vous avez des petits scores, vous n'êtes pas audible, pourquoi êtes-vous là? Eh bien écoutez, moi je suis là, je fais la campagne au premier tour, je défends effectivement ce programme. C'est un programme de lutte, certes, oui, c'est lever le drapeau de la révolution sociale, cet idéal communiste, eh bien je suis convaincue que vous savez ça tombe pas dans l'oreille de sourd. Voilà. Quel que soit, y compris ceux qui se porteront sur ma candidature et qui voteront pour moi, ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd parce que ça tombe dans l'oreille de travailleurs qui sont quand même confrontés à ce diktat patronal, à ce mur de l'argent.
Vous ne regardez pas vos sondages tous les matins?
Ah ça c'est sûr.
Non.
Des fois d'ailleurs je suis même pas notée, donc vous voyez.
Bien. Merci d'être venu sur le plateau de France 2012. Nous allons voir à présent un reportage de gens qui, c'est sûr, je peux vous le dire, ne vont pas voter pour vous. Il s'agit de ceux que l'on appelle les exilés fiscaux. Vous savez qu'ils passent une frontière pour payer moins d'impôts. Ceux-là, vous les rattrapez, j'imagine.
Oui, oui. Hein, et puis on les empêche surtout de partir et de partir avec leurs usines. Et voilà. On les oblige à maintenir les emplois et les salaires ici.
Merci d'être venu sur ce plateau.
Merci.
On regarde donc ce reportage de ces Français qui, pour échapper à l'impôt, notamment, sont partis en Belgique, tout près de la France.
Cela fait des années que de riches compatriotes colonisent les quartiers chics de la capitale belge. Cette avenue a d'ailleurs été surnommée l'avenue des Français. Mais aujourd'hui, le phénomène s'accélère.
Depuis l'année dernière, avec les nouvelles réformes de Sarkozy, et puis cette année, avec l'échéance de la présidentielle, les Français s'interrogent beaucoup sur leur avenir fiscal en France.
Car en Belgique, il n'y a ni impôt sur la fortune, ni droit de succession. Alors au bord des magnifiques étangs de cet autre quartier de Bruxelles, il n'est pas rare de rencontrer des Français SDF, des sans difficultés financières, comme ironisent les Belges. Cécile de Forêt est l'une des riches héritières du groupe Carrefour. Ce qu'elle est venue chercher ici, c'est la tranquillité pour sa fortune.
Ne pas avoir besoin de s'en occuper, c'est ça le luxe. C'est ça le luxe. Mais si on a de l'argent en France, il faut s'en occuper tout le temps. Il faut se cramponner, il faut se défendre. Expliquer qu'on n'est pas un salaud. On a gagné de l'argent, on n'est pas toujours un salaud.
Combien sont-ils donc à avoir déjà franchi le cap? Au moins 2000 selon les spécialistes. Un vrai phénomène. À tel point que dans cette société de bourse basée à Bruxelles, une partie de l'équipe ne s'occupe dorénavant que des riches Français candidats à l'exil. En général, des créateurs d'entreprises qui veulent revendre sans payer d'impôts. C'est exactement le calcul qu'a fait Alain Lefebvre. Au moment de partir en retraite, il a revendu à un magazine français à la santé financière florissante. Et il est venu se réfugier en Belgique.
Il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas un voleur. C'est-à-dire, je n'ai rien volé à personne. Je veux dire, j'ai profité de la législation qui m'a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros. Voilà. Que j'ai réinvesti en plus depuis dans une entreprise belge.
Bonjour.
Il a en effet créé un autre périodique pour les Français vivant en Belgique. avec à la clé une dizaine d'emplois dont la France ne bénéficie pas.